c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Open FM, votre radio des mondes en Balzac avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre opticienne en Balzac Optique. Lunettes, lentilles, contrôle de la vue, devis gratuit, conseils personnalisés. Alors n'attendez plus, votre opticienne en Balzac Optique vous attend au 14 rue Joanet à Balzac, au cœur de votre ville, et s'occupe de toutes vos démarches.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Vous écoutez Radio Open FM, la radio des mondes en Balzac. Bienvenue chez vous.
Et bon début de soirée à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Open FM. Vous nous écoutez sur le 97.9 chaque lundi à 17h. Pendant une heure, eh bien, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien, tout de suite, le sommaire.
On est vraiment bien sans
elle. I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé avec, dans un tout petit instant au sommaire aujourd'hui, Anne Hirsch, la co-réalisatrice du documentaire La vie au grand âge qui sera diffusée ce soir sur France 2, eh bien sera notre invitée, on en parlera de ce très beau film avec elle. Et puis nous aurons le plaisir aujourd'hui dans nos coups de cœur télé, eh bien de recevoir Marie Henry qui joue le rôle de Léa Nebout dans la série Plus belle la vie, on parlera avec elle aussi bien sûr de ses projets. Et puis autre invité aujourd'hui, Julien Masdois, il joue le rôle d'Henry dans la série Ainsi Grand Soleil. On parlera également aujourd'hui de son infidélité dans la série et de ses projets bien sûr à Julien aussi. Et puis en fin d'émission, Jean-Marie Bigard sera notre invité exceptionnel. Il va vous proposer lundi prochain un big stream, un spécial spectacle exceptionnel en live stream. On en parle avec lui bien sûr en fin d'émission. Et puis notre invité d'honneur aujourd'hui aussi, elle s'appelle Elsa Lugini, vous la connaissez bien sûr. Elle est dans Ici Tout Commence Tout les jours du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Nous aurons le grand plaisir d'avoir également Elsa pour la rediffusion du téléfilm Mon frère bien-aimé mercredi soir sur France 2. Vous l'avez compris, ça s'annonce chargé avec beaucoup de beaux invités aujourd'hui. On va pas s'ennuyer pendant une heure. Alors c'est parti, on commence comme chaque semaine par les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, eh bien lundi, il y avait un homme d'honneur sur TF1. Et d'ailleurs, eh bien, c'était le final qui a été suivi par 4 258 000 téléspectateurs et 17,9% de part de marché. Meurtre au paradis fait un très bon score pour le début de la saison 10 avec 3 990 000 téléspectateurs et 16,8% de part de marché. Marié au premier regard est dans sa moyenne avec quasiment 3 millions de téléspectateurs et 12,8% de part de marché. Mardi, La stagiaire écrase tout, 4 214 000 téléspectateurs et 17,6% de part de marché pour France 3. TF1 est deuxième avec Swat et 3 576 000 téléspectateurs pour 14,8% de part de marché. Talonné par Notaires Inconnus dans les Pyrénées avec Ahmed Silla sur France 2 et ses 3 236 000 téléspectateurs. Et Pékin Express ferme la marche du Quator sur M6 avec 2 703 000 téléspectateurs pour 12,3% de part de marché. Mercredi, The Resident arrive en tête sur TF1 avec 3 349 000 téléspectateurs. Top Chef sur M6 est deuxième avec 3 139 000. Et le téléfilm de France 2 Vulnérable arrive à la troisième place avec 2 660 000 téléspectateurs et 11,3% de part de marché. Jeudi, c'était le retour de Léo Mattei sur TF1. 5 296 000 fidèles de Jean-Luc Reichmann étaient au rendez-vous pour 24,2% de part de marché. Et puis Envoyé spécial sur France 2 fait un petit score avec seulement 2 045 000 téléspectateurs et 9,2% du public. Et puis vendredi, c'est le capitaine Marlowe qui écrase tout hein, depuis sa programmation sur France 2 le vendredi. C'est un véritable phénomène, plus de 6 millions de téléspectateurs encore une fois pour la série qui était au rendez-vous de cet épisode, en plus tourné dans notre région Nouvelle-Aquitaine du côté de Royan. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière et tout de suite, eh bien, on va accueillir Anne Hirsch dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacré au reportage infrarouge qui sera diffusé ce soir, le film La vie au grand âge, un film écrit par Anne Hirsch qui est justement notre invitée aujourd'hui. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, un film que vous avez co-réalisé avec Romain Abdan. La vie au grand âge raconte une immersion dans un EHPAD pas comme les autres, celui où la parole, notamment eh bien des pensionnaires, est importante. Ça peut être un peu, on va dire, un EHPAD pilote de ce que pourraient être les EHPAD de demain, Anne.
Alors ça, ce serait formidable si ça pouvait être un EHPAD pilote. Après, est-ce que on est prêt à ça? Je ne sais pas. mais c'est un EHPAD en tout cas dont on devrait s'inspirer tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, parce que c'est une coopérative et que finalement donner à tous la possibilité de s'investir à tous les sens du terme dans cette entreprise, c'est vraiment vraiment porteur, intéressant, probant et productif. Et sur le fond, parce que les gens sont acteurs de leur vie jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Alors après, il y a les personnes qui n'ont plus leur tout à fait toute leur tête, mais pour les autres, c'est essentiel de pouvoir dire oui, non, je veux ci, je veux ça, 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 c'est non, en toute conscience, quoi, sans être trimballé comme des paquets réduits à ce qu'on appelle le grand âge ou la vieillesse.
Alors, on va spécifier quand même, hein, Anne, que le film a été réalisé avant la crise sanitaire. Malgré tout, on se rend compte que les pensionnaires qui arrivent, comme par exemple ce couple avec Maurice et son épouse, on se rend compte que personne n'y va, évidemment, de son plein gré. C'est contraint et forcé. Alors, c'est important qu'on ait des personnes comme Armelle, qu'on voit, par exemple, dans ce film, les accueillir comme il se doit, vraiment leur parler, les rassurer. C'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment le temps aujourd'hui dans tous les EHPAD en France de faire ça.
Mais je pense pas qu'ils aient plus le temps dans celui-là que dans les autres, parce que partout il y a des problèmes de personnel. En fait, les personnels qu'on accuse peut-être souvent et peut-être à juste titre d'ailleurs de quelques maltraitances, cela cache l'immense majorité des gens qui font le maximum pour accueillir bien, pour être bienveillant, pour soutenir, comme vous dites, rassurer les gens qui arrivent et qui vivent là et qui savent, quand ils mettent le pied dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, que c'est leur dernier lieu. Si le monde était fait de gens comme Armelle, je peux vous dire qu'on n'en serait pas là, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est incroyable, ça change tout. Et Armelle ne coûte pas plus cher que n'importe quel autre. C'est vraiment une question de cœur. Enfin, je veux dire, ça se travaille aussi.
Alors, c'est l'EHPAD de l'Épine, hein, à Versailles, on peut vraiment spécifier. Oh. On disait, il est désigné un peu comme une coopérative aujourd'hui. On voit par exemple cette dame qui adore la couture, c'était sa passion. Et puis là, bah, elle peut reprendre justement en réparant les petits accros des uns et des autres. C'est aussi ça la participation collective que vous voulez mettre en avant dans ce film, hein.
C'est ça, parce que tant qu'on a le sentiment d'être utile et d'avoir des projets, je pense qu'on est vivant. Après, quand on est dépouillé de tous ces attributs humains, de ces possibilités de partager, etc., qu'on est réduit à un paquet, il n'y a plus rien. On peut se laisser crever, c'est fini. Mais tant qu'on peut se sentir un peu utile, entendu, ça change tout. Et Madame Vandenbroek, dont vous parlez, pour elle, la couture, c'était toute sa vie. Et c'était pouvoir recoudre un bouton, pouvoir faire un ourlet. C'était comme si elle était partie prenante de la maison, au sens famille, voilà, c'est une grande famille qui partage, qui se partage les tâches tant que c'est possible, autant que possible, mais qui voilà, elle prenait sa place comme ça dans cette maison en offrant ses compétences, c'est-à-dire le savoir-faire d'une vie.
Et se sentir plus vivante, très certainement.
Voilà. C'est ça.
Alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette parole, le fait de pouvoir parler, de discuter, même sur des sujets compliqués comme la fin de vie, comme la mort, mais le fait d'échanger, on a l'impression que ça les soulager. Moi, c'est les paroles de la femme à Maurice, pour le coup, qui m'ont vraiment bouleversé, qui m'ont beaucoup marqué, quand elle dit que voilà, juste avant, sa hantise, c'était qu'elle parte avant lui parce qu'elle savait pas comment on allait pouvoir s'occuper de lui, comment il allait pouvoir se débrouiller tout seul, et qu'aujourd'hui, maintenant, qu'ils sont dans ce cocon, en quelque sorte, eh bien, elle voudrait partir, maintenant. C'est incroyable, c'est bouleversant, des mots comme ça, c'est fort.
C'est bouleversant, oui. Alors, là, on parle donc de Madame Fissler, qui un jour a ce discours-là, le lendemain, ça va mieux, donc c'est quelque chose de mouvant, malgré tout, comme chez tout un chacun. Ce groupe de paroles sur la mort, sur la fin de vie, ça a été quelque chose d'incroyable. Parce que celui qu'on a filmé, donc c'était le premier, c'est la première fois qu'il faisait dans cet établissement un groupe de parole sur cette question-là. Et ça a soulagé les personnes, mais vous pouvez même pas imaginer comment. C'est-à-dire que ça a été un moment de délivrance. Ce tabou de la mort qui plane encore plus dans les EHPAD, ce qui est très paradoxal, parce qu'on attend à pas que ça, a priori.
Oui, c'est clair.
Ce tabou de la mort a été levé par ce moment de discussion. Et à la sortie, je vous assure, les gens étaient euphoriques. Euphoriques. Maintenant, ils étaient libres d'eux-mêmes, de leur vie, de mourir. Et ils avaient partagé leurs angoisses, qui ne sont pas entendues assez, je pense, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, même chez les personnes âgées en général, c'est une angoisse permanente qu'on néglige parce que on en a peur.
Et le mieux, c'est d'en parler justement.
Ben oui, il me semble aussi.
Alors, ce film, on le disait, a été réalisé avant la crise sanitaire. Comment va cet EHPAD aujourd'hui? Comment s'est passée cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles aussi?
Bien sûr, j'ai de leurs nouvelles. J'ai gardé contact avec beaucoup. Écoutez, il a eu beaucoup de mal à traverser cette crise, comme tout le monde. Les gens ont été confinés dans leurs chambres, ce qui a été très dur à vivre, très compliqué. Il y a eu des problèmes de personnel, comme partout. Il y a eu des problèmes de dépression, comme partout.
Ça a dû mettre à mal ce qui était en train de se mettre en place, justement.
Oui, mais donc ils vont repartir, parce que la volonté est là, et c'est ça qui est important, c'est que la volonté est là, c'est que ce modèle doit vivre, ça doit repartir à zéro, comme on va tous repartir sur des bases nouvelles, et ils vont repartir à partir de cette expérience-là, et j'espère dans la même direction. De toute façon, la coopérative existe, les statuts sont là, et donc, si vous voulez, c'est le moteur de cet EHPAD, cet esprit coopératif, cet esprit de partage, d'écoute, de considérer que chacun a son mot à dire, et encore plus quand il s'agit de sa propre vie.
Est-ce que vous imaginez y retourner, Anne, pour tourner une sorte de suite, pour montrer un peu les évolutions au fur et à mesure?
Je pourrais y retourner, j'y retournerai avec plaisir. J'y suis retournée d'ailleurs beaucoup avant la crise sanitaire. Tourner une suite, je sais pas, c'est compliqué parce que certains sont partis. J'ai l'impression qu'on a saisi un moment, j'adorerais par ailleurs y retourner, mais je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça.
Eh bien, on va voir ce film, en tout cas, très beau film. La vie au grand âge, c'est ce soir en deuxième partie de soirée sur France 2. Un film que vous avez co-réalisé avec Romain Hamdan. Anne, merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, on va y écouter tout de suite un petit extrait. À très bientôt. Merci, Anne.
Merci, au revoir.
Ça va, c'est le grand jour.
Il paraît.
Il paraît. On y va?
Oui.
Je viens vous chercher en avant.
On est prêt.
Allez, on est prêt. Monsieur Fissler, ici c'est chez votre épouse. Pour aller dans votre chambre, là on passe la porte. Et c'est deux chambres qui sont communicantes. Je vous décris, c'est une chambre qui est assez grande, avec un lit au milieu. Il y a un fauteuil. Vous avez déjà des petits meubles de chez vous. Et puis vous avez une vue sur le stade. Donnez-moi cette main-là. Là vous sentez, c'est la porte. La porte pour aller dans la salle de bain.
De toute façon, je
ne
vais pas pouvoir manœuvrer ça tout seul.
Oui, ça, c'est sûr.
Et on se retrouve donc dans un instant avec Julien Mazdois, Marie Henry et Elsa Lugini. Alors surtout, ne bougez pas. A tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
sur 24, toute la musique qu'on aime, c'est Radio Open FM.
Je dois longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir, que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pourquoi. On se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps aimer, des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes. Au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. urgence. Tu me dis que tout se danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tout se danse, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque. Contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin. Mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence, que tous dansent. Danse. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence.
Radio Open FM 99, votre radio.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacrés à votre série quotidienne Plus belle la vie tous les soirs à 20h20 sur France 3 avec Marie Henry qui nous a rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour.
Quel bonheur de t'avoir avec nous, Marie.
C'est gentil, moi aussi je suis bien contente.
Le rôle de Léa Nebout qui n'en finit pas de nous faire vivre de grandes aventures en ce moment. Dis donc, c'est beaucoup beaucoup à l'honneur dans la série en ce moment. Ton personnage a pris une envolée. C'est vachement chouette.
Ouais, je m'attendais pas. Je suis super contente.
Alors après la mort de ton grand-père, pour le coup on ne voit plus beaucoup dans des scènes à l'hôpital, on t'a fait vivre d'autres choses maintenant, puisque tu es la première adjointe de la mairie de Marseille, ça c'est aussi autre chose.
Oui, c'est tout autre chose. Alors moi je trouve ça formidable. Alors déjà, j'ai rencontré un partenaire que j'adore, Jean-Luc qui joue Lougane, et donc le maire. Super belle rencontre. Je suis dans un nouveau décor, en extérieur aussi. Du coup, ça sortait des studios parce que je fais en hôpital la plupart des scènes se tournent.
Puis la part des nouveaux aussi.
Et la part des nouveaux aussi. Donc ça m'a fait du bien effectivement de prendre un peu mon envolée dans d'autres sphères. En plus, la politique, alors, je n'y attendais pas du tout. Et en même temps, c'est assez logique par rapport au fait que voilà, les médecins sont les nouveaux héros, etc. Donc après, l'hôpital me manque.
T'es bien la seule à dire ça en ce moment.
C'est clair. Bah oui, parce qu'en fait, finalement, on s'attache au décor, on s'attache à la blouse, au jargon médical, à sa fonction. Ça me fait un peu bizarre quand je vois les scènes qui sont à l'hôpital sans moi. Je me dis, mais pourquoi je suis pas avec vous? En plus, il y a un super super acteur qui vient de débarquer.
Oui, Simon. Relâché.
Eh ben ouais.
C'est le beau gosse, hein. Mais maintenant, il va pouvoir tous vous recevoir maintenant dans son nouveau cabinet. Oui, tu risques d'avoir besoin de lui puisqu'on a appris quand même que Léa est enceinte. Ça, c'est un grand moment puisque Léa se cherche un peu depuis quelques semaines et est au cœur de ce triangle amoureux entre Jean-Paul et Angélique. Et il est vrai que là, c'est la nouvelle qui a surpris tout le monde. Il a suffi d'une seule fois et ça y est, Léa est enceinte. Donc le plus dur a été évidemment de l'apprendre à Angélique la semaine dernière. Ça s'est pas très bien passé. Alors maintenant, va-t-elle le garder ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans les futurs épisodes, parce que là, c'est pas trop où elle en est, Léa.
Pour l'instant, elle ne le sait pas, mais en fait, elle va très vite le savoir. Parce que bon, il faut savoir quand même, il faut se rappeler qu'elle est lesbienne. Déjà, être enceinte, c'est quelque chose d'hyper important, de pas anodin, d'encore moins anodin que si elle était hétéro, j'ai envie de dire. Et là, bon, le fait que ça arrive de manière aussi naturelle et soudaine, on n'avorte pas comme ça, quoi, encore moins. Donc voilà, donc je crois que là, c'est un coup du destin. Qui ne peut pas être, ne pas être pris à bras le corps, si je veux dire. Oui, c'est un sacré coup. Et d'ailleurs, sur un coup, alors ça, c'est assez extraordinaire.
C'est ça.
mais bon, on va mettre ça sur le compte symbolique que Boer et Léa attendaient ça depuis longtemps.
Après, Angélique aussi, c'est un personnage auquel on s'attache super vite. Je trouve qu'elle est, elle est super mimi aussi.
Ouais. J'étais super contente parce qu'on se connaît avec Léa d'Auvergne. connais depuis plusieurs années. On a des bandes de potes en commun et en fait, moi, j'ai toujours une attirance amicale avec elle parce qu'elle est très solaire. Elle a toujours eu, à chaque fois que je la voyais, le sourire. C'est un vrai soleil,
c'est tout. Ouais, c'est vrai.
Et je trouve ça tellement précieux et rare. Et du coup, j'ai pas du tout été étonnée quand elle m'a dit qu'elle passait les essais. J'ai bien insisté auprès de la production que j'avais très envie que ce soit elle. Preuve en est que même, voilà, le tournage s'est terminé. On ne savait pas si elle allait revenir. On ne sait toujours pas.
Mais on espère, en tout cas.
Ouais, on espère. Et le tournage s'était à peine terminé quand on a eu envie de continuer de travailler ensemble, donc on a fait des chansons ensemble qui ont super bien marché sur les réseaux. Donc tout ça est très cohérent et très fluide entre nous. Ça, ajouté au fait que l'intrigue était super intéressante à jouer, je dois dire que ces derniers mois, je me suis bien régalée.
Eh bien, je me doute. Et ça se sent, en tout cas, et ça se voit. Alors, Marie, il y a eu une réplique culte la semaine dernière. On ne peut pas passer à côté dans l'épisode de mardi dernier. Le moment où tu lances à Barou, quand même, que lui il te dit qu'il a le bras long et que tu lui réponds avec quelque chose de déconcertant quand même, qu'il a beau avoir le bras long, bientôt il lui servira juste à se gratter le cul. Alors là, franchement, ça vient de qui? Est-ce qu'il y a eu un peu d'impro? Comment s'est passée cette scène pour garder son calme et son sérieux? Ça a dû être compliqué.
Alors franchement, ça a été très simple. Enfin, très simple. Déjà, c'était écrit. Hein. J'ai absolument rien improvisé.
Bah, bravo aux auteurs.
Ouais, bravo aux auteurs. Et j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, ils mettent ça sur le compte que voilà, Léa a des débordements hormonaux qui font qu'elle ne se maîtrise pas comme elle le voudrait. Et du coup, je flippais un peu. Mais donc, du coup, je suis très contente que ça t'ait plu.
Oui, je te rassure. Alors, est-ce que tu as d'autres projets, justement, aussi à côté de Plus belle la vie? Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses? Je sais que tu avais une pièce sur Cyrano, en espérant qu'on puisse aller vous revoir vite sur scène.
Ah bah, Cyrano, on l'a joué pas mal de fois déjà, à Paris l'année dernière et l'année d'avant aussi. Et en fait, on est sur une nouvelle pièce qui s'appelle Vivat, qui est donc une pure création avec ma compagnie. Voilà, et en fait, on va avoir une résidence au mois de juin dans les Alpes. Voilà, et puis à côté de ça, moi j'ai toujours mes projets de musique. J'ai de plus en plus de plaisir à chanter, à jouer. Et donc, j'ai plusieurs projets avec différentes personnes. Et aussi un projet solo. Et tout ça prend du temps. Voilà, c'est à peu près tout. Après, tous ces tournages, pour l'instant, je me consacre qu'à Plus belle.
Ouais. Là, t'es très présente, il faut dire.
Bah oui, j'ai pas du tout le temps de faire autre chose.
Bon, ben on va suivre tout ça. Puis tu sais, Marie, t'es la bienvenue, évidemment, dans Chez ton écoute la télé quand tu le souhaites.
Bah c'est adorable, merci beaucoup.
Eh ben on t'embrasse très très fort. Et puis on te retrouve évidemment tout au long de la semaine à 20h20 sur France 3. Léa est enceinte et évidemment Bauer, Angélique, qu'est-ce qui va se passer dans ce trio amoureux qui se dessine devant nous? On va le découvrir dans les futurs épisodes. Merci à toi et à très bientôt.
Merci, à bientôt Alain.
Tu me files un coup de main mon gars?
Oh non, vraiment.
Et toi?
Ah ben Cholola. Non, ça va aller, merci.
C'est Noé, il passe me voir ce soir.
Un rendez-vous dans une forêt en haut d'un arbre.
Pour tes capotes, bonne chance dans l'arbre.
C'est drôlement romantique.
Tu m'expliques l'intérêt de te mettre minable pour un mec?
Tu vois, depuis que je suis ici, je vois plus trop les choses de la même façon en fait. Ce que je veux dire, c'est que je suis très bien toute seule.
Elsa Bailly, c'est bien la compagne de votre père.
Oh, quand est-ce que je vais voir un médecin?
Elle est en train de craquer. Elle bouffe plus, elle dort plus.
Ouais, ben cherche pas, c'est la ménopause. Hein.
Il faut que tu t'accroches jusqu'au procès.
Pourquoi faire?
Coup de cœur télé consacré à la série Ainsi Grand Soleil que vous retrouvez tous les soirs à 20h45 sur France 2. Et puis c'est Henri qui est un peu au cœur des intrigues amoureuses en ce moment dans la série. Et c'est Julien Mazoua, son interprète, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on va parler d'Henri.
Avec grand plaisir.
Évidemment.
Oui, Henri.
Bon cher Julien. Alors on va dire qu'en ce moment il est pas très très fidèle quand même. Hein.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Alors qu'est-ce qui lui arrive? Raconte-nous ce qui lui arrive à Henri, lui qui est si droit. D'habitude.
Je pense qu'il a eu un coup de foudre, hein, on va dire, en quelque sorte, quoi. Voilà, hein. On choisit pas. Ça, c'est la version personnage, on va dire. Après, la version scénaristique, ben, c'est que je pense que, quitte à mettre quelqu'un dans une situation d'adultère, ce qui était le plus intéressant, c'est de le faire avec celui pour lequel on s'y attend le moins. À savoir, ben, ce bon vieux Henrik, en couple avec Mo. Et puis, voilà, c'est un peu le couple qu'on a avec Mo. C'est, depuis le début, il est étiqueté comme étant le couple solide par excellence.
Ah ben, le couple indéboulonnable. inlassable.
Voilà, exactement. Que quelles que soient les épreuves qu'on leur impose, ils restent toujours soudés. Donc du coup, bah, c'était le candidat le moins probable pour une histoire d'adultère. Et je pense que les scénaristes ont voulu surprendre tout le monde en mettant Eric dans cette situation-là, quoi.
Alors évidemment, vous étiez deux sur le coup. Et là, eh bien, Gary a découvert le poteau rose la semaine dernière. Et évidemment, il en veut beaucoup à Henrik. Ce qui nous a donné encore quelques scènes bien cocasses avec Gary, bien évidemment.
Tout à fait. Bah oui, et parce qu'en fait, ce qui est rigolo, bon, bah voilà. Ce qui est marrant, c'est que du coup, ce pauvre Gary qui a fait rentrer donc le personnage de Myriam à le cosmétique se retrouve donc à me l'avoir en quelque sorte donné sur un plateau, on va dire, même si j'ai l'impression que c'est plus elle qui tire les ficelles.
Ah oui.
Mais ce qui est marrant, ce dont il faut se rappeler quand même, ce qui est rigolo, c'est que je suis quand même en couple avec son ex-femme. Donc en fait, même si c'est pas explicitement dit, je pense pas que ce soit cité dans aucune des scènes. Je pense que les spectateurs, ils ont ça en tête et ils disent, mais ça fait deux fois quand même, ça fait deux fois qu'il lui pique une nana, quoi.
Eh oui. Alors là, évidemment, ça lui plaît pas du tout. Alors va-t-il tout dire à Mo? C'est ce qu'on va découvrir évidemment dans les épisodes qui vont venir. Comment Mo va prendre cette infidélité si elle l'apprend un jour? En tout cas, il s'en passe bien des choses. Alors, on a découvert évidemment aussi une vidéo sulfureuse d'Inès. Et la pauvre, là aussi. Henrik est quand même toujours d'un grand réconfort avec sa belle-fille. Hein.
Et oui, tout à fait. Ouais. C'est marrant en fait parce que dans cette histoire, finalement, même si effectivement, Mo est dans une situation compliquée. Si jamais elle apprend ce qui se passe, elle va être dévastée. Mais c'est vrai que les gens, la plupart du temps, me disent, ce pauvre Gary, comment il va prendre ça? Et puis surtout, Inès en fait, hein. Inès, comment elle va prendre ça, quoi? C'est un peu comme si c'était elle qu'on avait plus peur de décevoir que Mo en fait. Hein. C'est assez marrant de voir que le lien qui a été créé entre les deux personnages et que du coup, finalement, il soit plus redevable presque à sa belle-fille qu'à sa femme, quoi.
On va découvrir ça d'ici quelques jours. Julien, moi, la chose qui m'a marqué, Un si grand soleil, la série va fêter ses 3 ans. Il y a eu un arrêt pendant le confinement l'année dernière, pendant quasiment 2 mois et demi. Les téléspectateurs étaient immédiatement au rendez-vous dès le retour de la série, le 1er juin. Est-ce que ça vous a tous étonné? Est-ce que vous aviez peur de perdre des spectateurs en route? Est-ce que c'est quelque chose que toi et les autres comédiens, ça vous a vraiment épaté de voir la fidélité du public à ce point-là?
Alors, épaté, oui. Parce que moi, je suis toujours épaté. Je suis épaté tous les soirs. Dès qu'on reçoit les chiffres le lendemain des audiences, puis à chaque fois, je me dis, quand même, merde, quoi. 4 millions, on est monté jusqu'à 4 millions 9, je crois, comme on a même fait un jour à 5 millions. Je me dis à chaque fois, c'est extraordinaire. Nous, dans notre petit coin, là, on fait notre travail et puis on essaie de le faire du mieux possible. Mais au moment où on est en train de tourner, on réalise pas, on se rend pas compte. Moi, je suis quelqu'un qui vient du théâtre, je joue devant maximum 300, 400 personnes. C'est inimaginable de se dire, ok, ce que je suis en train de faire là, 5 millions de personnes vont le voir, peut-être. Et quand il y a eu cette histoire de confinement et qu'on a effectivement ressenti de la part de tout le monde des craintes que, quand on reprenne, les gens ne soient pas au rendez-vous. Moi, mes craintes ont été dissipées assez rapidement parce que pendant le confinement, j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux, de spectateurs qui disaient qu'on leur manquait, qui disaient qu'ils avaient besoin de ça en ce moment, que c'était loin d'être une futilité pour eux. Donc, j'ai eu tellement de contacts avec, en fait, les fans pendant le confinement que j'avais zéro doute sur le fait qu'à la reprise, ils allaient être présents. Ouais, parce que c'était vraiment quelque chose qui leur manquait. Et je vois même en ce moment où finalement les choses sont un peu difficiles et quand même la crise n'est pas encore terminée, je vois les messages que m'envoient les gens, quoi. Ils ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de cette espèce de bouffée d'oxygène, de voir des gens en masque à la télévision. Ouais. Ça les embête pas qu'on prenne le parti, d'avoir des restaurants dans la série, d'avoir des gens qui se baladent sans masque. Au contraire, ça leur donne une espèce de réalité parallèle, en fait. C'est horrible de dire ça, hein, une réalité normale qui devient une réalité parallèle, finalement. Je suis content, je suis plein de gratitude, mais je suis pas surpris. Et je crois que c'est vraiment la force de ces programmes-là, mais bon, je pense que je t'apprends rien, bien sûr, hein, tu connais tout ça mieux que moi, tous ces programmes quotidiens. Ou en tout cas récurrents, ça marche aussi avec des récurrents.
Dès que vous n'êtes pas là une journée, ça manque.
Ouais, parce que finalement, ces gens-là nous voient plus souvent que leur propre famille, hein. Ils nous voient plus souvent que leur proche de la vraie vie, quoi. Ils nous voient tout le temps, tous les soirs, il y a un rendez-vous qui est pris. Et finalement, je pense qu'on s'attache.
On s'attache à vous tous en tout cas, et puis quel bonheur de vous retrouver tous les soirs du lundi au vendredi à 20h45. Alors quand il y a des fois un épisode qui saute, on le retrouve le samedi aussi à 20h45. Et le public est toujours au rendez-vous aussi. Mais en tout cas, exactement. Voilà, la série continue, va fêter ses 3 ans fin août pour notre plus grand bonheur.
Ouais.
Et Julien, écoute, on t'embrasse très vite et puis on te laisse retourner vite sur le tournage. Merci de nous avoir offert ces quelques minutes.
C'était vraiment avec grand plaisir. Je t'embrasse toi. Et puis voilà, un petit message à tous les fans. Merci de continuer à nous suivre. C'est vraiment pour nous qu'on bosse comme des malades, quoi.
Eh ben ça se sent en tout cas. Allez, tout de suite un petit extrait et merci à toi. Bientôt, Julien.
Avec plaisir. Au revoir.
Moi c'est Julie.
Eh ben moi c'est Marc, du coup.
Votre chien, vous l'avez retrouvé?
Putain!
T'as le champ libre pour reconquérir ton ex, tu t'arrêtes ton temps?
T'es vraiment connard.
Si Becker apprend ça, on est mort! Dieu n'est pas ce genre de personne.
Ce sera au juge pour enfants d'en décider.
Coup de cœur télé consacré à mon frère bien-aimé qui est rediffusé mercredi soir sur France 2. On a eu l'occasion de la recevoir à l'époque justement pour ce film et elle est de retour avec nous. Aujourd'hui, c'est double actualité pour Elsa Lunghini qui est avec nous. Bonjour Elsa.
Bonjour Alain.
Ça me fait très très plaisir de vous avoir Elsa. Alors ici tout commence. Du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Ouais. Mon frère bien-aimé, mercredi soir. On va voir que Elsa, cette semaine, c'est génial.
Ben moi je suis ravie.
Je me doute. Mon frère bien-aimé, pour aller directement justement sur ce téléfilm, il a été tourné maintenant il y a quelques années. C'est l'histoire de deux frères dont l'aîné prête à tout après évidemment le meurtre accidentel que son petit frère a commis. Et donc là, évidemment, c'est une relation avec le frère aîné, vous, dans le rôle de Barbara, que vous entretenez, qui va évidemment tout compliquer. C'est vraiment l'histoire d'une fratrie prête à tout pour se protéger, mon frère bien-aimé. C'est vraiment ça. Hein.
Ah oui, bah les deux frères, c'est la fratrie qui est prête à tout pour s'entraider. Après, c'est pas forcément très moral, cette histoire, mais c'est justement ce qui est intéressant dans ce téléfilm, c'est-à-dire que ça va pas dans le sens du poil, ça bouscule un peu et je trouve que c'est pas souvent à la télévision et moi j'ai un très 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 bon souvenir et de ce tournage et de ce que j'en ai vu après, c'est-à-dire vraiment du téléfilm fini et à la diffusion, je sais qu'on était tous très contents quand on était allés à l'avant-première de ce téléfilm voilà. Je crois qu'il y avait eu un bon retour aussi des gens suite à la diffusion. Enfin, que ce soit le rapport des deux frères et avec leur épouse aussi, que ce soit Natasha Lindinger qui joue l'épouse de
Michael Youn,
de Michael Youn, ou que ce soit moi, par rapport à Olivier Marchal. Chaque personnage en fait a son identité et a ses choses à vivre et à faire dans ce téléfilm et c'est plutôt bien. Ouais.
Qui est-elle Barbara, en quelques mots? Comment on pourrait la définir?
Barbara, au départ, c'est une femme droite. Enfin, elle est juge d'instruction et c'est une femme plutôt droite et très très amoureuse. Voilà, elle est très amoureuse du personnage interprété par Olivier Marchal et ils vivent une passion tous les deux. Et voilà, mais elle fait son travail de juge.
Oui, pas toujours évident, vous le verrez. Pas toujours de façon évidente.
Pas toujours évident, non.
Tout est entremêlé comme ça. J'imagine Elsa que quand on est sur un tournage avec Mickaël et Olivier, moi qui les connais bien, on doit pas s'ennuyer tous les jours quand même.
Ah non, on s'est pas ennuyé. Puis je crois qu'en plus tous les deux, ils se sont vraiment trouvés sur le tournage. Ils se connaissaient pas. Et il y a une amitié sincère qui s'est créée entre les deux. Ouais, ça ricanait beaucoup et c'était très très simple et très très décontracté et on s'entendait tous vraiment très très bien. Donc le tournage a été un très bon moment de partage et de connivence entre les uns et les autres. Ce qui ne gâchait pas notre plaisir.
Un petit mot sur Denis Malval aussi, réalisateur qui est en plus
Denis qui
tombé
est
amoureux de notre région lui. Il est carrément tombé amoureux de la région.
Absolument. Et puis c'est une crème de réalisateur, une crème de mec. Enfin, moi, ça a été aussi une découverte. Je connaissais le talent de Denis avant de tourner avec lui, et j'avais très envie de travailler avec lui. Donc, ça a été une chance et une vraie découverte aussi de cet homme que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un très, très bon réalisateur, très humain, très doux, et en même temps qui sait parfaitement ce qu'il veut. Et c'est un très bon directeur d'acteur. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Et on l'embrasse, s'il nous écoute une production.
Ah oui, s'il nous écoute, je l'embrasse très fort. Ouais.
Et une production d'Erac Film que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir pour le coup mercredi à 21h05 sur France 2. On écoute la bande-annonce et puis on revient juste après pour parler de Clotilde, quand même. Aussi, Clotilde Armand. Ici tout commence, c'est du lundi au vendredi sur TF1. On en parle juste après, mais tout de suite, mon frère bien-aimé, la bande-annonce.
Mercredi soir, mon frère bien-aimé.
Qu'est-ce qui se passe? C'est un accident. Laisse-moi tomber, Étienne. Je veux pas aller en prison.
Et vous avez fait quoi ce samedi?
Ce jour-là, j'avais prêté ma maison.
À qui? Rien ne t'accuse. Je vois pas pourquoi on te soupçonnerait. Tu n'es pas n'importe qui dans la région.
Je peux pas le laisser payer pour moi, c'est mon frère, Sonia.
Si tu continues à te taire, tu vas prendre 20 ans. Tout t'accuse.
Mon frère bien-aimé, mercredi soir sur France 2.
Voilà, mon frère bien-aimé, on ne le rate pas. C'est donc mercredi soir, 21h05 sur France 2. Elsa, on va revenir maintenant sur cette incroyable succès. Ici, tout commence depuis le 2 novembre dernier. La série enchaîne les audiences records, affole les compteurs de la ménagère sur TF1. Et puis vraiment, on sent une alchimie entre vous tous. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que ça a l'air d'être aussi une formidable aventure humaine, cette série.
Ah bah, de toute façon, c'est pour que ce soit réussi et que ça puisse perdurer, il faut que les gens s'entendent bien. C'est-à-dire, quand on tourne une quotidienne, on se retrouve tous les jours, on tourne ensemble, on se voit tout le temps. La réussite aussi d'une aventure comme celle-là, c'est l'entente entre les uns et les autres, c'est le choix justement des acteurs, du casting, pour que les uns et les autres puissent s'accorder, parce que sinon ça devient une purge. Si on s'entend pas avec ses partenaires, c'est très très compliqué de poursuivre une aventure. Donc moi je sais, quand on m'a proposé la série, on m'a déjà parlé d'un certain nombre de gens du casting qui étaient pas encore complètement sûrs, mais qui étaient dans les tuyaux, et c'est vrai que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette série, c'était les partenaires.
Vous avez hésité à un moment donné de vous engager sur une quotidienne comme ça, quand on sait le travail et puis vraiment l'énergie que ça demande, hein, c'est complètement différent.
Oui. Enfin, moi, je suis pas du tout. J'ai pas la télévision, donc je regarde pas les séries quotidiennes. Et c'est vrai que c'était pas un programme où j'aurais regardé spontanément. Et quand mon agent m'a appelé, j'étais en plein confinement, mon agent m'a appelé, m'a parlé de ce projet. Et c'est vrai qu'au début, je savais pas trop si j'allais dire oui ou non. Et c'est vrai qu'en parlant avec mon agent, et quand elle m'a parlé et du rôle et des gens qui étaient susceptibles de tourner dedans, c'est vrai que j'ai considéré tout ça et que j'ai appelé Catherine Marshall. On s'est appelé toutes les deux aussi parce qu'on se connaissait déjà d'un projet qu'on avait fait ensemble et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc on avait parlé toutes les deux, et le fait que et l'une et l'autre on était pressentis pour la série, c'est vrai que ça a encouragé aussi à accepter. On s'est dit que ça allait être une aventure et qu'on avait envie de se lancer dans cette aventure avec tous ces gens-là et l'histoire aussi, l'histoire de le thème principal, les rôles des uns et des autres. C'était un cadeau aussi, moi me concernant, un cadeau pour une comédienne d'avoir interprété un rôle tel que celui-là.
Ça, c'est sûr, c'est ce que j'allais dire justement, parce que Clotilde cachait beaucoup de secrets qui ont été dévoilés au fur et à mesure. Les 3-4 premiers mois, c'est une Clotilde très dure qu'on a découverte, voire même des fois odieuse. Et là, il est vrai qu'on a l'impression maintenant, au fil des semaines, qu'elle s'adoucit. Et là encore plus avec le retour de Jérémy à la maison, on la sent même plus apaisée là maintenant aujourd'hui.
Oui, après ça reste une quotidienne. Est-ce que Clotilde, voilà, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, et que ce personnage est de toute façon complexe, a des fêlures et des choses qui remontent au fur et à mesure, des intrigues et des choses qui peuvent se passer pour elle ou contre elle, elle a un caractère bien trempé. Donc elle est complexe, elle a plusieurs couches. Je pense que les 3-4 premiers mois, on pouvait en même temps lui en vouloir de se comporter d'une certaine façon et en même temps la comprendre à certains moments. Et c'est ça qui fait l'intérêt aussi du personnage et des séries comme celle-là. C'est qu'on peut suivre les personnages. Nous, en tant que comédiens, on vit avec ces personnages-là et on arrive à les développer, à les faire évoluer. On peut s'amuser, vraiment. Et Clotilde, oui, elle se laisse pas faire. Elle est en même temps et maladroite et très aimante. Son fils, c'est tout pour elle. Donc dès que ça touche à son fils, on peut sentir une émotion ou une douceur.
Ah bah, elle est prête à tout pour lui.
Elle est prête à tout pour lui, pour préserver sa famille. Elle est avec ses maladresses, et elle est très entière en même temps et très maladroite parce qu'elle peut s'y prendre d'une façon pas toujours très sympathique, a beaucoup de discernement à certains moments, elle est un peu aveuglée par par justement ce caractère qui est très entier et qui est sans concession. Donc voilà, je pense que ça fait partie de la complexité de ce personnage-là, et en même temps, c'est pour ça que je l'aime aussi et que je m'attache de plus en plus aussi, moi, à Clotilde et à ce personnage, parce que à chaque fois, il y a une redécouverte ou une découverte de ce qu'elle est, de ce qu'elle est capable de faire, ou de l'émotion qui peut la submerger à certains moments. Elle est touchante. Voilà, dans toute sa complexité et sa maladresse, elle est touchante.
Bon, alors que l'histoire d'amour entre Célia et Jérémy a l'air de pas être totalement terminée, voire même repartir, elle va pas voir ça d'un bon œil. Mais parlons un peu cuisine quand même aussi. Elsa, c'est quoi votre plat préféré?
Oh là là, j'ai pas un plat préféré. Je suis très gourmande et j'aime beaucoup la gastronomie et la cuisine en général. J'aime cuisiner. Ah ouais, moi c'est un plaisir. Déjà c'est un bonheur de travailler aussi avec des chefs qui nous préparent des plats absolument délicieux. Et puis on apprend aussi chaque jour des choses. La série parle de transmission aussi, et c'est je pense que dans la vie c'est comme ça. Moi ça, la transmission elle est faite. Moi ça a été ma mère qui cuisinait beaucoup à la maison et qui continue toujours de cuisiner beaucoup et qui m'a transmis des plats familiaux qui étaient aussi les plats de ma grand-mère. Donc c'est voilà des bons plats bien copieux, que ce soit du couscous, parce que ma famille est née en Algérie, qu'il y a cette culture-là, donc du couscous, du tagine, et après des plats bien de chez nous, que ce soit des daubes, que ce soit des ragoûts, des petits salés aux lentilles, voilà, des vrais bons plats, des boulettes, des grosses marmites qu'on met sur la table, et c'est généreux, c'est gourmand, j'aime ça.
Eh bien, ça nous met l'eau à la bouche, toujours, tous les soirs. Ouais. Hein. Ah oui, à 18h35, on a l'eau à la bouche à chaque fois quand on regarde la série.
C'est ça qui fonctionne aussi, et je pense que les gens aiment ça, c'est-à-dire qu'en plus des histoires où les gens peuvent se retrouver, des histoires qui sont ou des histoires d'amour et entre les jeunes et entre les plus âgés aussi, des histoires de jalousie et des histoires de trahison, et il y a en même temps parallèlement cette cuisine où on découvre des plats, et en plus il y a une interaction, puisque sur les réseaux sociaux on donne aussi des recettes qui étaient faites, des recettes des plats qu'on peut nous faire et proposer dans la série. Donc les gens aussi peuvent refaire des recettes. Donc voilà, il y a une vraie interaction et une gourmandise juste avant de passer à table. Donc c'est oui, je pense que ça fait partie aussi du plaisir et de la réussite et du succès de la série.
Alors la semaine dernière, on a suivi le dénouement autour évidemment des parents de Greg, puisque voilà, ça y est, ça a été découvert et Greg a dénoncé sa mère. Donc là, de nouvelles intrigues vont arriver. Est-ce que Clotilde va être un peu au cœur des futures intrigues qui arrivent là?
Oui, il va y avoir des intrigues où je suis de nouveau au cœur des intrigues, et de toute façon c'est des vagues, hein, les quotidiennes c'est vraiment comme des vagues, c'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui sont sur des personnages au fur et à mesure, qui disparaissent un peu, même s'ils sont toujours un peu là, mais ils sont un peu moins souvent là, et puis après ça revient, voilà, c'est des vagues, et je ferai partie de sûrement des prochaines vagues.
Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Direction Calvière, tous les soirs à 18h35. On est presque 18h40 même en ce moment, hein, sur TF1.
Ouais.
On ne rate pas la suite d'ici tout commence. Merci Elsa d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir. À très bientôt.
Et puis rendez-vous aussi mercredi dans Mon Frère Bien-Aimé à 21h05 sur France 2. On vous embrasse très fort. Merci Elsa.
Merci moi aussi.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Vous êtes le seul qui avait continué de croire en moi.
N'oublie pas qu'on a prévu quelque chose ensemble demain.
Pourquoi tu t'intéresses à Louis comme ça d'un coup ?
On a un projet ensemble, voilà.
Le concours du meilleur apprenti ?
Il va m'aider à accomplir mon destin d'armand.
Tu comptes revenir à l'institut ?
Ouais.
Le père de Greg, il tape sa femme. On a balancé de l'eau belle.
T'imagines pas la merde que t'as foutu ?
Mon mari n'a jamais levé la main sur moi.
Je voudrais vous parler. C'est pas mon père qui me frappe.
C'est quoi ces conneries, là ? C'est ma mère.
Et dans un instant, Jean-Marie Bigard, dans Chez Ton Écoute la télé, on parle du Big Stream. Ça sera lundi prochain. On en parle avec lui, bien sûr, dans quelques instants. Alors surtout, bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
De la musique. Du rire. De la bonne humeur. Vous écoutez Radio Open FM.
C'est les restes du quartier. Les voyous sont tombés là. Et elle en joue. Tout son visage, elle innove. Mais bon, voilà. Elle a joué, elle a perdu. Il a dragué, le balai est tombé.
La vie ça va trop vite, prends ce que t'as, profite.
en couple ça date, mais madame n'est plus un petit soin. Il va dans une soirée, mais bon là y a son ex. Il s'est fait cramer, allez se marier, mais à la teen next.
Radio Open FM.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, le Big Stream, ça va nous faire du bien de vivre une belle soirée, de rire ensemble lundi prochain en string live avec Jean-Marie Bigard qui va nous présenter son Big Stream. Jean-Marie Bigard and Friends. Jean-Marie, bonjour et merci d'être avec nous.
Hey, bonjour Alain, tu vas bien?
Ça va très très bien, j'espère que tu vas bien aussi mon cher Jean-Marie.
Moi aussi, je suis très content moi, parce que d'abord je vais monter sur scène, même si c'est pour faire un spectacle en streaming, ça sera joyeux de toute façon. Il y aura quelques personnes masquées qui feront mon petit fond d'estomac, comme on dit. Ça veut dire qu'il y aura quand même quelques personnes, et puis je vais raconter des blagues. J'ai 5000 blagues, j'en ai sélectionné une bonne trentaine parmi les meilleures. J'ai Paul Adam et peut-être d'autres amis surprises qui vont venir. Le tout sur un plateau de rigolade où je vais vous révéler des images, par exemple, du Stade de France que vous n'avez jamais vu, notamment de la préparation. C'était colossal, donc des images inédites et puis des petites choses que vous n'avez peut-être pas su. Sur le Stade de France, qui est de loin le plus grand jour, évidemment, de ma carrière.
Mais oui, donc tu vas nous livrer des anecdotes inédites. On peut le dire
absolument.
Comme ça.
Absolument. Hein. Exactement.
Et c'est ça qui va être bien. Alors, tu vas te produire depuis un théâtre, celui de ton producteur, David Hardy, c'est ça?
Oui. Oui, oui, il a fait l'acquisition d'un théâtre super mignon. C'est un petit bonbon, quand on le voit en photo. J'y suis pas encore allé, mais... ça va pas tarder, donc. Puis voilà, on va faire ça dans la joie et dans la bonne humeur et pour faire plaisir à tous les gens qui achèteront leur petite place à 5 balles.
Concrètement, comment on peut faire pour acheter sa place? C'est 5 euros. Franchement, voilà, pour passer une belle soirée, rire ensemble, c'est quelque chose qui doit énormément te manquer de pas avoir le public en face de toi, en te connaissant
c'est
bien.
C'est comme... Oui, je suis comme un drogué en manque, mais de public, de scène, de plateau, de tout ça. Je tourne en rond. Quand je vais chercher une baguette de pain, je m'arrange pour faire rigoler les gens. Tu vois, ça compense un petit peu le manque, quoi. Tu vois,
ouais.
C'est terrifiant de pas pouvoir jouer, surtout quand t'es habitué à créer seul sur scène l'ambiance. Tu vois, pour nous, les spectacles seuls en scène, c'est terrible, tu vois.
Comment ça se passe justement quand tu redeviens monsieur et madame un peu tout le monde et que tu vas chercher ta baguette de pain et qu'est-ce que te disent les gens à ce moment-là que tu leur manques?
Monsieur, je peux pas être monsieur tout le monde, j'ai fait le con l'autre jour parce que le mec gentiment, je l'ai fait parce que le mec faisait son boulot, mais je rentre à la grande épicerie à côté du Bon Marché où j'habite, et le mec me dit je suis masqué hein, donc jusque sous les yeux, et le mec faut retirer votre casque. Je lui ai dit mais pour voir quoi? Il me dit pour voir votre tête. J'ai dit non, j'ai eu peur que vous la voyiez pas parce que je suis masqué, donc c'est pour voir mes cheveux ou mes oreilles, hein, ça vous dit de voir mes oreilles? Et il me met à faire le con, je retire mon casque, je vous ai vu, vous pensiez pas une seconde que j'avais des oreilles, hein? Et alors je leur ai montré mes oreilles, mes cheveux, tout ça, et il y a tout d'un coup 10 personnes qui étaient là autour et qui rigolaient comme des baleines, y compris le mec qui me demandait de retirer mon casque, tu vois, parce que ça me semblait ridicule. Alors que le gars, il faisait évidemment que son boulot, hein, c'est ce qu'on lui demandait de faire. Mais bon, ça m'a fait rire de montrer mes oreilles et mes cheveux, puisque c'était le seul truc qui me restait à montrer, tu vois.
Bah oui, c'est ça. Il était satisfait au moins.
Donc, oui. J'ai dit, mais regardez, vous avez déjà vu deux oreilles comme ça? C'est magnifique, ces deux petits coquillages, regarde. Et elles sont drôles en plus. Donc les gens, ils s'en allaient la gueule, et puis moi aussi, quoi. Du coup, je me faisais plaisir, je faisais un peu mon métier, quoi.
Mais là, plus sérieusement, est-ce que les gens te le disent, le manque qu'ils ressentent de justement ne pas pouvoir aller te voir sur scène, d'aller voir les artistes sur scène, du spectacle vivant?
Bien sûr, je reçois plein de messages. Heureusement, je fais mes petites vidéos tous les jours. J'en ai fait une sur la maternité de Guingamp. Tu sais que j'avais empêché de fermer. En m'adressant au couple présidentiel, et ça avait marché, eh bien, ils ont battu le record d'enfants cette année, avec 130 naissances, au lieu d'une quarantaine les autres années, tu vois, donc j'étais très fier. Je suis devenu le parrain de 130 enfants de la maternité de Guingamp.
T'es une vraie aide à la procréation, en fait.
Ah bah ouais, de toute façon, j'avais dit... À l'époque, j'avais dit si c'est un problème d'enfants, j'irai les faire moi-même. Hein, c'est le faux, hein.
Toujours dévoué.
Ça avait fait rire Brigitte Macron. J'avais dit, je m'adresse à votre cœur de femme. On peut pas fermer cette maternité. Je n'ai pas payé de ma poche une maternité au Burkina Faso parce que les femmes accouchaient sur la terre battue. Donc j'ai fait construire une maternité pour qu'on en ferme une. Chez nous, tu vois, donc en réalité, c'était plutôt un problème de médecins et de, tu vois, d'anesthésistes et tout ça, c'était plutôt ça qui manquait.
Ah oui.
Mais bon, ils ont décidé de repousser la fermeture de cette maternité de au moins de 2 ans, et l'année d'après, elle bat son record de naissance, donc c'est plutôt très joyeux, quoi.
Exactement, je te reconnais bien là, en défenseur de ces causes-là. Jean-Marie, pour revenir au spectacle, il va y avoir évidemment, je suppose, tes plus grands sketchs aussi.
Bien sûr, ça va être un petit mélange, mais je vais m'amuser à faire un peu ce que, au fil du temps, avec mon dernier best-of extraordinaire que je joue, je recueille tous les commentaires des gens quand je remonte dans ma voiture pour aller à la ville suivante. Et tout ça, on a eu tout ce qu'on voulait, sauf que je pensais que vous alliez faire les chiottes d'avion. Et moi, je dis, mais c'est quoi les chiottes d'avion? Et je m'aperçois qu'en fait, il y a des gens qui sont accros à des sketchs qui sont nés sur scène,
et oui,
qui n'ont pas été écrits et déposés et ensuite joués. Ils sont nés sur scène, comme ça, au hasard d'un mot... Tu vois, là, je parlais, par exemple, je parle volontiers de merde, hein, tu sais bien. Donc, je parlais de nos cacas, qui étaient plus ou moins formidables, en billes, ou des fois qui collent un peu aux fenêtres, comme on dit. Là, au contraire, j'évoquais le fameux perfect.
C'est ça aussi.
C'est-à-dire, le perfect, c'est un truc formidable, c'est tu le sens partir. Il est très bien, il finit en pointe, il a une pénétration dans l'eau magnifique, il t'éclabousse pas du tout le cul, même le juge russe, très peu sportivement, normalement, tu vois, qui est très sévère, il te met 9,95, et c'est, je dis, ça a un nom, ça s'appelle un perfect. Et je dis, il y a le double perfect, tu prends une feuille de papier, tu t'essuies, rien sur la feuille, tu vois. Alors qu'à d'autres moments, tu te dis, c'est pas possible, j'ai un pain au chocolat dans le cul ou quoi, tu vois, tu prends 30 feuilles et tu ramènes toujours un peu de merde. Et Et là, le triple perfect, c'est que tu recolles la feuille sur le rouleau. Donc, je faisais cette petite parenthèse qui n'avait pas été écrite, mais qui plaisait beaucoup aux gens. Et puis, petit à petit, au fil des représentations, je me suis mis, un jour, j'étais venu en avion et j'avais été fasciné, tu sais, par la puissance de l'aspiration qu'il y a dans les chiottes d'avion.
Oui, c'est vrai, oui.
Tu sais, il y a un liquide bleu qui tombe tout autour et ça part d'un coup et reste plus rien, tu vois. Effectivement, c'est ce genre de petit truc que je vais m'amuser à faire pendant ce streaming, c'est-à-dire d'évoquer des sketchs qui sont pas spécialement les plus connus, mais parfois, entre deux sketchs imparables, arrivait un truc comme ça qui naissait sur scène. Donc je m'amusais à raconter tous ces petits trucs-là, tu vois. Et puis des blagues des blagues d'enfer, tu vois, j'ai 5000 blagues, si j'en fais 30 triées sur le volet, tu vois ce que ça peut donner, tu vois.
C'est clair. Alors, vous y méprenez pas, ça ne sera pas un spectacle merdique, malgré ce que vous pouvez écouter. T'as vu, je déteins sur toi.
Non, pas du tout, non.
Bon, pour acheter vos places, alors, comment on fait? Concrètement, on se rend sur quel site, sur quel Facebook? Raconte-nous.
Tu vois, t'as vu, David, tu t'y connais plus que moi, parce que moi, je suis une personne âgée, mais il suffit d'aller acheter sa place sur Internet, quoi.
Exactement, vous allez sur la page officielle de Jean-Marie Bigard sur Facebook, par exemple, et vous aurez toutes les informations pour réserver votre place pour ce stream live exceptionnel qui aura lieu donc lundi prochain en soirée. Donc voilà, un grand rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer avec toi, Jean-Marie. Et on va bien rire, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin en ce moment, je te le dis.
Bah, bien sûr, mais je suis là, il n'y a pas de souci. D'accord.
On t'embrasse très, très fort, Jean-Marie. Merci
moi
d'avoir
aussi,
été avec
t'embrasse
nous.
Je t'embrasse très fort et donc à très bientôt.
Allez, à très, très vite.
Ouais, ok, au revoir. Bye.
Croise un pote dans la rue, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai perdu mes clés. Et l'autre, il dit, tu les as perdues où? Bah, je les ai perdues là-bas, mais je préfère aller chercher leur cache-cachère. Je suis un petit peu con, toi. Et tu sais que c'est pas facile, hein, parce que, évidemment, je savais que j'allais revenir vers vous, hein, avec ce sketch. Et toi, en matière de filon inépuisable, pas du tout, hein, il y en a pas tant que ça. Eh ouais, tu sais, par exemple, quand quelqu'un te pose une question, que la réponse est sous son nez. Va tellement, par exemple, toi, tu arrives vers un pote, t'as une écharpe autour du cou, tu sais, le bonnet, jusque-là, le nez tout rouge qui coule. Comme ça, toi, t'arrives vers lui, il fait « Hein ?» Et là, il dit « Ah, tu t'es enrhumé ?» Ben, je dis « Non, j'appelle mon chien. » C'est un chien polonais, il s'appelle Hatche. Hatche, viens ici au pied, Hatche.
Et pour réserver votre place donc pour le spectacle de Jean-Marie Bigard, le Big Stream de lundi prochain, rendez-vous sur le site internet lemon.fm ou sur la page officielle, bien sûr, Jean-Marie Bigard. En réservant votre place, il y aura également un tirage au sort qui permettra à l'un des spectateurs streaming de gagner un magnifique voyage pour deux personnes sur l'île de Zanzibar, le tout en all inclusive en plus. Tirage au sort à la fin du spectacle par Jean-Marie lui-même. Donc c'est une belle soirée qui s'annoncera donc en perspective lundi prochain, à ne pas rater. Donc réservez vite vos places.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir Guillaume Labbé à nouveau pour sa nouvelle série L'école de la vie qui sera diffusée prochainement sur France 2. Nous aurons le plaisir également de parler de la nouvelle saison de Clem. Et puis nous aurons également le grand plaisir de recevoir Astrid Veillon pour la première fois dans Chute on écoute la télé pour nous parler de la saison 5 de Tandem qui fera son retour la semaine prochaine sur France 3. Et puis bien d'autres surprises évidemment.
Votre radio des mondes en Mazac, c'est Radio Open FM, à retrouver aussi sur radioopenfm.fr.
Allez, n'oubliez pas que Chute on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec La Quotidienne à 13h10 et 16h sur Radio Open FM. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute on écoute la télé et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute on écoute la télé. Je vous retrouve également lundi prochain à 17h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Open FM.
chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre opticienne en Bazac Optique, lunettes, lentilles, contrôle de la vue, devis gratuit, conseils personnalisés. Alors n'attendez plus. Votre opticienne en Bazac Optique vous attend au 14 rue Joannet à Ambazac, au cœur de votre ville, et s'occupe de toutes vos démarches.